Bonsoir, je suis Suzanne Beaujour, je suis enseignante de lettres, pardon. Communément, on estime que la fiction est une forme de connaissance du réel, un type de connaissance donc référentielle, c'est-à-dire reconnaître d'une certaine façon que nous utilisons la fiction comme mode d'arbitrage sur les faits, que le récit nous influence et qu'il s'inscrit dans nos vies. D'autres traditions, d'autres théories littéraires, peut-être un peu plus récentes, à l'intersection des philosophies de la fiction et des sciences cognitives, se préoccupe aussi de la traiter comme une forme de connaissance, mais d'une connaissance dite expérientielle, celle d'une immersion, de la confrontation à un monde virtuel, des réactions émotionnelles face aux œuvres, comme celle par exemple de s'entraîner à y lire l'esprit des autres, de tester des manières d'être, d'être au monde, et en gros de développer une compréhension expérientielle de situations éthiques. Ainsi, le récit de fiction peut nous permettre de nous rendre la réalité supportable, peut répondre à un désir de construire le monde qui nous entoure, de nous connaître, d'exister, de s'exercer à un jeu social, de modéliser des comportements. Et la fiction donc contribue à élargir notre expérience et nous permet d'affiner nos capacités cognitives. C'est une pratique sociale donc à part entière et une expérience de pensée. La littérature est un développement de soi, d'une éthique de soi et de l'autre. Donc, je pars évidemment de mon expérience de l'enseignement, mais aussi évidemment de mes connaissances théoriques et de mon expérience de lectrice. J'estime qu'il faudrait défendre la littérature parce que s'y immerger nous répare et parce qu'elle constitue une arme de renarration contre les offensives d'un réel parfois trop vaste à appréhender et d'un réel à réécrire. L'expérience littéraire vient de l'enfance, des premiers échanges qui calquent le langage sur le réel, dans l'articulation des premiers sons, puis des mots, tout comme la lecture est d'abord orale, pour délier les mots, les expressions, et disputer leur sens au mutisme ou au bruit du monde dont ils sont la référence. Ensuite, le récit de fiction ne se conçoit d'abord qu'entendu. Si la bouche de celui qui raconte n'est pas visible à côté de nous, nous ne pouvons pas concevoir enfant la figure d'un narrateur ou d'un auteur. Et au contraire, si nous entendons une voix parler, nous ne pouvons que la calquer sur le réel et postuler son existence. La fiction est double. C'est une voix qui narre un récit, et c'est l'imaginaire dans lequel elle nous embarque, comme dans nos premiers jeux. Elle nous permet de faire semblant, de faire comme si. Ainsi se rapprochent les fictions plus sophistiquées des adultes, la littérature en général, et les jeux de faire semblant de l'enfance. Or, les jeux, comme les récits, sont des sources d'émotions fortes. Les œuvres de fiction ont des effets émotionnels intenses sur les lecteurs ou les spectateurs. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles nous chérissons les fictions. Si nous y trouvons une nourriture, c'est qu'elles sont liées au jaillissement dans le fil d'un imaginaire, d'un élément de réel reconnu, reconstruit par nos perceptions personnelles. Nous nous y sentons connectés. Ces émotions présupposent des convictions qu'il nous faut pour comprendre le récit. Si on considère l'émotion de crainte, par exemple, il semble que l'on ne craigne pour soi-même que si l'on se croit en danger. Pendant longtemps, on a parlé de théorie de l'illusion ou d'un effet de réalité où les lecteurs ou les spectateurs des fictions viendraient à croire en la réalité des personnages et des événements représentés. Il arrive très fréquemment que mes élèves me demandent « Mais est-ce que c'est vrai ?» Cette question est une façon de signifier, de souligner ce que la littérature suppose. D'une part, concevoir un imaginaire et une intention narrative, celle d'un narrateur ou de l'auteur, et d'autre part que cette intention, cet auteur, cet autre, a une parenté avec nous, une connivence, qu'on doit réciproquement s'entendre. Savoir qu'on partage une réalité, une illusion du réel, un imaginaire, une psychologie. On doit donc parier sur la sincérité, la lucidité, le mentir vrai, le pacte, toutes ces prétentions qui sous-tendent l'acte d'écriture. La question des élèves vient de cet entrelacement de faits et d'événements qui est une construction mentale constante en réalité, celle de nos interactions psychologiques. Les fictions engagent non pas les croyances des lecteurs, mais leur capacité à faire semblant et à imaginer, et qui permettent de voir la fiction comme un guide, une aide externe à un développement de l'imagination. Il semble que l'on cherche à donner du sens au comportement d'autrui en adoptant sa perspective. Tel est le pacte à faire. Plutôt que la question « est-ce que c'est vrai ?» peut être un peu naïve, il faudrait dire « puis-je le ou la croire ?» celui qui parle. « Qu'est-ce que j'ai en partage avec lui ? Que me propose-t-il de partager ?» Quand nous lisons une fiction, nous devons croire un absent, et parfois dans une temporalité totalement différente de la nôtre. Tel est le miracle de la littérature. Au IVe siècle de notre ère, il y a eu un événement raconté par saint Augustin dans ses Confessions. C'est sa découverte d'une possibilité de lire en silence. Il le voit s'étant rendu en visite chez saint Ambroise, il le voit lire en silence. Il a peut-être lui-même ensuite expérimenté cette lecture, mais au départ, cela le questionne. La lecture suscite en effet un sentiment de solitude sereine, favorisé par le silence et par la communion avec le texte et la proximité des auteurs. Comme Augustin avant lui, Isidore de Séville pensait que la lecture rend possible une conversation à travers le temps et l'espace, mais avec une distinction importante. Les lettres ont le pouvoir de nous communiquer silencieusement les propos des absents. La fiction peut alors être comprise, suivant cette double hypothèse, comme une véritable culture du faire semblant ou de la simulation. Il s'agit pour le lecteur de s'imaginer lui-même dans la peau de quelqu'un qui aurait certaines propriétés différentes des siennes, des propriétés qui seraient en partie celles du narrateur et en partie celles de l'auteur du récit. Je suis avec l'autre qui dit, je deviens l'autre, je m'immerge dans son imaginaire. Nous, lecteurs, afin de simuler la vie mentale des personnages du récit, devons en quelque sorte doublement simuler de manière personnelle ou superposer deux niveaux de simulation, puisque nous devons simuler quelqu'un qui simule les personnages du récit, en quelque sorte avoir des simulations par résonance. Dans le roman du 19e siècle, notamment et fortement, il y a énormément de descriptions détaillées des états mentaux des personnages, de vastes descriptions qui dilatent le temps de l'introspection. Ces développements, loin de manifester un contraste entre le domaine de la fiction et celui de la réalité, aident leur lecteur à mieux lire l'intériorité de l'esprit des personnages dans la réalité et à trouver du sens dans leur comportement. Nous entrons donc dans la multiplicité des écrits, des écritures ou des styles, des jeux de langage qui distillent la diversité des narrations offertes à l'imaginaire des lecteurs. La littérature, ce sont des familles de jeux de langage. Ces jeux exigent une confrontation avec des espaces où tout est permis avec la langue. Partant, ces jeux s'éloignent de l'immédiateté de la communication parce qu'ils participent à la différencier et à l'organiser. Le lecteur donc doit prendre des chemins où se superposent des pratiques de langage multiples. Mais il sait qu'une intention sincère et proche de la sienne préside au signe, au récit, qu'on le guide et qu'on organise un événement littéraire. Sans réduire le texte à une intention d'auteur, la lecture y cherche un écho dans l'épaisseur de l'expérience, qu'elle soit psychologique, représentative d'une identité ou d'une altérité, ou encore d'un débat à concevoir. Elle peut donc s'ouvrir au dissensus dans la résonance des expériences simulées. Cette confrontation, donc, parce qu'elle est une appropriation multiple, et dans le temps, permet de décider de ses goûts, de trancher dans ses visions, de hiérarchiser ses réactions, de prendre une place dans une humanité complexe et un réel en dévoilement incessant. Encore une fois, dans le même temps que Saint-Augustin découvre la lecture silencieuse, lui-même pratique un exercice qui s'appelait les hypomnémata, qu'on pourrait traduire par les soubassements d'une construction de soi ou d'une construction de pensée, qui consistait à recueillir dans un carnet des pensées lues ou entendues. Et il s'agissait de retrouver de construire sa réalité dans des discours vrais. Il s'agissait de faire en sorte que les discours vrais transforment l'intériorité par une appropriation de vérité lue et consignée. Et il s'agissait donc par là de se construire une identité en dehors des angoisses de la pensée. La littérature et l'imaginaire nous sont peut-être davantage en partage que le réel, trop incohérent. Et de surcroît, elle nous permet de le comprendre, ce réel, quand il est porté par la sincérité mutuelle de la co-construction lecteur-auteur, lecteur-narrateur. Au contraire, lorsqu'il ne s'agit pas de chercher un assentiment par une construction mutuelle et sincère, comme dans les théories du complot, par exemple, le texte ne confronte pas le lecteur à un imaginaire. Il ne peut y retrouver son autre, auteur ou narrateur, et ce récit n'a pas de style personnel. Il n'est que celui du fanatisme. La confiance accordée à la sincérité d'un narrateur ou d'un auteur exerce donc la pensée et l'exercice critique. La question ici est donc de s'accepter, de se découvrir, de se trouver une voie dans ce monde, cette fiction, mais aussi de concevoir un réel dans ses mutations les plus complexes. Le sujet lecteur de fiction, parce qu'il participe à la création de la temporalité fictive, parce qu'il donne de son temps pour faire exister la fiction en lui, peut expérimenter un rapport au temps radicalement impossible dans l'ordre du réel. Dans leurs œuvres monumentales, Balzac notamment et Flaubert dévoilent des hypocrisies sociales, des organisations de pouvoir, de domination et d'exploitation subies au travers de vies qui s'effilochent doucement sur des centaines de pages. Les temporalités qu'ils déploient dans leurs œuvres sont représentatives de la façon dont les sujets sont régis par un temps capitaliste et bourgeois. L'une des grandes habiletés de Balzac, par exemple, est notamment d'avoir indexé le temps de sa narration sur l'argent, dans une multiplication de digressions et de jeux sur les modalités duratives, des ellipses, des latences. Il a mis en scène ainsi une cohorte de personnages débiteurs et à chaque fois leur ascension dans le monde social est beaucoup plus rapide que leur dégringolade. Le récit donc se donne comme un territoire de pensée, des réalités, passées et possibles. Donc, contre les réseaux sociaux ou tous les réseaux qui redupliquent à l'infini les informations et font estimer que l'immédiateté et le nombre réalisent ou font exister, contre ces récits sponsorisés, la littérature revendique et se revendique de l'humanité en co-construction, indépendante du réel abrutissant, impossible à appréhender au présent. Elle fait table rase et elle refond, elle met à l'épreuve la réalité dans un échange entre des consciences. La lucidité ou la sincérité qu'un écrivain offre et qu'il exige de son public, à l'opposé du jugement ou de la déshumanisation.